La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Attaqué par un forcené, des gendarmes ont tiré sur lui en état de légitime défense. Voilà la vérité judiciaire à propos de la mort d'Angelo. Vérité judiciaire avait précisé dès le lendemain du drame et devant des caméras de télévision le procureur de la République chargé de l'affaire. Mais la vérité judiciaire, pas toute la vérité. Elle n'est assurément pas la vérité ethnographique. Celle à laquelle parvient au terme d'une méticuleuse contre-enquête l'anthropologue Didier Fassin. Il est cette semaine l'invité de la suite dans les idées. Vérité judiciaire, vérité ethnographique ou sociologique, mais aussi vérité littéraire qui s'autorise de la fiction, à laquelle recourt dans un épilogue Didier Fassin, vérité littéraire dont il sera question en seconde partie de l'émission avec l'écrivaine Marie Cosnet. Bonjour Didier Fassin.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue, vous êtes professeur à l'Institute for Advanced Study à Princeton, directeur d'études à l'EHESS, et vous publiez aux éditions du Seuil, le livre est sorti il y a quelques mois, « Mort d'un voyageur, une contre-enquête ». Contre-enquête, c'est le sous-titre qui nous indique le genre de ce livre, un genre pour le moins original, surtout s'agissant de sciences sociales qui sont plus habituées à mener des enquêtes que des contre-enquêtes. Un livre assez bref dans lequel vous revenez sur ce qu'on va appeler une affaire, la mort d'un voyageur, ça c'est le titre du livre. Voyageur, ça veut dire gens du voyage, c'est la manière dont on appelle les gens du voyage. Mort d'un voyageur, c'est une affaire singulière, précise. Comment avez-vous été amené à travailler sur ce qui est à l'origine de cette contre-enquête ?
Alors c'est une affaire dont je n'avais pas entendu parler jusqu'au moment où une association de personnes qui se battaient pour ce qu'ils appellent justice et vérité pour Angelo m'ont contacté en me demandant si je pouvais intervenir dans une manifestation publique qu'il faisait en invitant quelques personnalités. Et j'étais à l'époque aux États-Unis et je leur ai expliqué que je ne pouvais donc pas intervenir malheureusement puisqu'il aurait s'agi simplement de généralité puisque je ne connaissais pas le cas en particulier. Et puis je me suis ravisé quelques minutes plus tard et je leur ai écrit « Je ne peux pas venir, mais éventuellement je peux vous envoyer un texte si vous le souhaitez. » Un texte qui bien sûr sera d'ordre général sur des questions de traitement par la police, la justice, la prison également, car Angelo avait fait plusieurs séjours en prison et c'est précisément parce qu'il n'est pas rentré lors d'une permission de sortir qu'il a été à ce moment-là recherché par la police et la gendarmerie. Et donc j'ai fait ce petit texte qui a été lu à l'occasion de cet événement, de cette rencontre, et nous sommes de cette façon restés en contact. J'ai eu la suite du traitement judiciaire de cette affaire et j'ai cherché aussi de mon côté à en savoir un peu plus sur ce qui s'était passé, en tout cas ce que racontaient à la fois les médias, le procureur et les décisions de justice qui sont tombées, à savoir des non-lieux pour les gendarmes, pour légitime défense, non-lieux qui a été confirmé en appel. Et donc, il m'a semblé que les éléments qui étaient donnés étaient d'un ordre de faible plausibilité. Il y avait un grand nombre d'invraisemblances qui étaient dans la manière dont les choses étaient présentées. Et du coup, je me suis dit que c'était peut-être intéressant de regarder ce qui se passait de plus près. Et puis aussi parce que des relations s'étaient un petit peu plus développées avec cette famille, la famille d'Angelo. J'ai décidé d'aller les voir. Et une fois que je les ai rencontrés, je me suis dit que je devais peut-être aller plus loin Et aller plus loin, pour quelqu'un comme moi, c'est faire une recherche et peut-être écrire un livre. Je leur en ai parlé parce qu'il fallait bien sûr avoir leur assentiment. Ils ont accepté immédiatement. Je leur ai dit, mais je vous préviens, ce que je vais rechercher et ce que je vais peut-être trouver et ce sur quoi je vais écrire risque de ne pas correspondre exactement à ce que vous voulez défendre. Est-ce que vous êtes prêts à entendre autre chose ? Ils m'ont dit oui. Et c'est ainsi que j'ai essayé, dans une première partie de ce livre, de reconstituer toutes les versions que j'ai pu recueillir. Alors recueillir soit par des entretiens, des témoignages directs de personnes qui ont accepté de me parler, depuis des membres de la famille jusqu'au procureur, en passant par des avocats par exemple. Et puis pour celles et ceux qui ont refusé de me parler, et notamment les deux gendarmes qui ont été mis en cause dans cette affaire, et en tout cas qui ont tiré, et sont donc responsables de la mort. J'ai essayé, avec les nombreux témoignages qu'ils ont livrés à la justice, de raconter leur version. Et donc, on a quelque chose qui peut ressembler pour le lecteur, dans la première partie, et je le mentionne de cette façon, à ce que le spectateur du film Rashomon d'Akira Kurosawa peut avoir, c'est-à-dire des versions différentes qui se succèdent, vues à la troisième personne par les acteurs eux-mêmes. Donc il y a la version du premier gendarme, du deuxième gendarme, la version du père, la version de la mère, et puis ensuite de témoins indirects, le médecin, le journaliste, le procureur, etc. Ce qui permet, je crois, de respecter autant que possible ce qu'ont été ces différentes vérités auxquelles la justice s'est trouvée confrontée, notamment, bien sûr, les deux juges d'instruction, puisqu'il en a eu deux successivement.
Alors, il y a une vérité qui a été dite et qui est de droit désormais, c'est cette vérité judiciaire. Je crois qu'à aucun moment dans le livre, vous utilisez l'expression d'erreur judiciaire et vous prenez au sérieux l'expression de vérité judiciaire. Pour montrer aussi toutes ses limites, la manière dont elle est produite, les effets et les conséquences qu'elle entraîne, mais surtout la manière dont elle est produite, et comment à cette vérité judiciaire, on peut juxtaposer d'autres vérités, et en particulier une vérité que vous qualifiez d'ethnographique, qui est celle qui résulte de ce travail que vous avez mené, qui consiste à mettre à plat les versions, et qui consiste ensuite à approfondir l'enquête, à pointer les incohérences dont vous parliez, par exemple. Pourquoi avoir pris au sérieux cette vérité judiciaire et pourquoi avoir tenté de produire une autre vérité ? Il y a derrière ce travail des enjeux considérables qui touchent à l'épistémologie, au mode de connaissance, au fond, de la société dans laquelle on vit, Didier Fassin.
Alors effectivement, je n'ai pas utilisé l'expression « erreur judiciaire ». J'ai même repris à plusieurs reprises les propos du procureur qui avait dit à la famille et qui ensuite a dit aux journalistes « Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour établir une vérité, nous l'appellerons « vérité judiciaire ». Et donc, il y a déjà cette prise de distance par le procureur lui-même qui dit « Nous l'appellerons « vérité judiciaire ». ». Autrement dit, il ne prétend pas qu'il s'agisse d'une vérité absolue. Et dès lors, je crois que ça ouvrait pour moi la possibilité de la recherche d'une possible autre vérité. J'ai hésité d'ailleurs à utiliser moi-même le mot « vérité » parce qu'il y a quelque chose d'un peu absolu et de celui qui saurait. Et c'est pour ça que je l'ai appelé « vérité ethnographique », c'est-à-dire c'est une version qui est basé sur tout un travail à la fois d'examen de tous les témoignages qui ont pu être recueillis, mais aussi de tous les éléments annexes qui ont été produits, à savoir une autopsie, un rapport balistique, tout un ensemble d'autres techniques qui ont été faites autour de cette mort. Et donc, en reprenant pièce à pièce tous ces éléments, il m'est apparu qu'une autre vérité se faisait jour, et sans remettre en cause, puisque de toute façon ça n'aurait eu aucun intérêt, puisque en quelque sorte la vérité judiciaire est passée, il y a eu deux juges d'instruction qui ont donné leur version, c'est-à-dire non-lieu par légitime défense. Il y a eu ensuite la Cour de cassation qui n'a pas souhaité réexaminer sur la forme ce dossier. Et donc, il ne reste plus aujourd'hui que la Cour européenne des droits de l'homme pour statuer. Mais de toute façon, elle ne statuera pas sur la responsabilité des gendarmes, mais sur la manière dont l'État a traité cette affaire, c'est-à-dire à la fois la justice et disons l'ensemble du dispositif qui a été mis en place pour écouter ou ne pas écouter la version des familles. Parce que au fond, ce dont je me suis rendu compte, c'est que très vite, c'est-à-dire dès le lendemain, le procureur de la République a repris la version qui était celle des gendarmes, qui était celle de la légitime défense, et n'a quasiment pas pris en compte, en tout cas il ne l'a même pas cité vis-à-vis des journalistes, le fait que la famille avait vécu les choses tout à fait autrement. Et pour être, sans entrer dans le détail de l'affaire, les policiers expliquent qu'ils sont entrés dans une petite salle sombre de cette ferme et qu'ils sont entrés avec leur lumière et un harnachement et des armes tout à fait impressionnantes.
C'est des gendarmes du GIGN.
C'est le GIGN, absolument, une unité du GIGN. Et donc, ces cinq gendarmes qui entrent dans ce lieu obscur, qui l'éclairent. Et alors, selon eux, ils découvrent un homme qui se lève, qui les attaque avec un couteau, qui
très agité,
refusant de lâcher son arme. Donc une scène qui ne peut pas durer, d'autant plus qu'il y a des tirs pour essayer de le contrôler avant de passer à.
Selon la version des gendarmes, il y a sommation, tir de taser, puis tir avec des balles.
Voilà. Et donc tout ça prend au moins, d'après ce qu'ils disent même eux-mêmes, de l'ordre de 40 secondes, 45 secondes. Or la famille décrit, et non seulement le père, la mère, mais également le beau-frère, l'oncle, la belle-sœur qui était là.
Qui ne sont pas des témoins oculaires, mais qui sont des témoins auditifs de la
scène. Qui sont des témoins auditifs, qui étaient dehors, allongés sur le sol et maintenus par des autres hommes du GIGN armés, et qui disent qu'ils sont entrés et que dans les secondes qui ont suivi, les tirs ont été entendus. Alors bien sûr, on a là deux versions simplement, on pourrait dire, ben voilà, c'est une version contre l'autre. Mais il m'a semblé que cette deuxième version n'était pas entendue du tout. Et c'est pour ça que l'exigence que j'ai essayé d'avoir et que je souhaite que à la fois la justice mais aussi la recherche puisse avoir, et c'est le cas en général pour la recherche, c'est que toutes les voix soient entendues. Que toutes les voix aient la même légitimité. Et pour ma part, c'est ce que j'ai essayé de faire. Mais bien sûr, il s'agissait là simplement de témoignages. Alors, il faut remarquer que parmi les cinq policiers qui étaient à l'intérieur, les témoignages sont extraordinairement contradictoires.
Certains oui, on n'a pas une version contre l'autre. On a une version, celle de la famille, qui est assez cohérente. Les différents membres de la famille disent la même chose. Et puis, on a du côté des gendarmes des versions qui disent à peu près la même chose, mais qui varient quand même sur des éléments assez importants.
Alors, qui varient sur des éléments importants, comme par exemple, l'homme était agité, criait, ou l'homme était silencieux, pour d'autres. L'homme s'est jeté sur eux et il y a eu une mêlée, dit l'un, comme une mêlée de rugby. L'autre dit, il s'est effondré à côté de nous. Bon, il y a toute une série comme ça d'éléments qui sont contradictoires, qu'on peut peut-être mettre sur le compte de l'émotion. Mais ensuite, il y a aussi des éléments, alors là pour le coup, objectifs. Et je ne vais pas non plus les détailler, mais simplement pour en donner deux. Il est indiqué dans le rapport de la juge d'instruction, il est indiqué que la personne, que la victime n'avait pas été touchée dans des endroits vitaux de son corps. Or, les quatre des cinq balles qui l'ont traversé. L'une traverse le cœur, les autres traversent le poumon. Il perd en quelques secondes la moitié du volume sanguin et donc il meurt d'une hypovolémie, d'un choc hypovolémique. On peut pas dire qu'il y ait véritablement une absence de parce qu'on pourrait imaginer que les policiers, les gendarmes dans ces cas-là tirent dans les jambes, par exemple.
L'enjeu là, c'est la qualification du geste, c'est-à-dire que ça permet de dire que les organes vitaux n'ont pas été visés, ça permet de dire que la mort n'était pas recherchée.
Exactement, et que les gendarmes ont fait ce qu'ils ont pu pour se défendre contre cette ce forcené qui se jetait sur eux avec ces armes. Il faut s'imaginer ces gendarmes qui sont complètement harnachés, qui sont protégés, qui ont un casque, qui ont des protections anti-balles et qui sont donc cinq avec leur pistolet mitrailleur face à cet homme avec son couteau. Puis le deuxième élément disons un peu technique, c'est sur la balistique, puisque le rapport balistique montre que les balles ont été tirées de haut en bas, que le corps a été traversé de haut en bas, alors que le policier qui a tiré le premier explique qu'il était par terre lorsqu'il a tiré, que l'autre dit qu'il était à sa hauteur. Et donc on a là une contradiction qui est tout à fait évidente. Donc il y a un certain nombre d'éléments comme ça que j'ai pu reconstituer et qui permettent d'arriver à une autre version possible que j'ai essayé dont j'ai essayé de rendre compte. Mais au fond, ça amène à une interrogation beaucoup plus générale sur la construction de la vérité judiciaire et sur la possibilité de l'élaboration de mensonges dans des cas comme celui-là.
Ce qui vous intéresse, c'est la manière dont cette vérité se trouve objectivée à travers une procédure qui est celle de la justice. Et de cette affaire, il ne faudrait pas faire une exception. L'intérêt pour les sciences sociales de se saisir d'une affaire comme celle-là, c'est de montrer comment elle permet de réfléchir de manière très générale à ces formes d'objectivation, de production de la vérité à travers ces procédures judiciaires. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des péripéties aussi, c'est que certes le procureur procède très tôt à un cadrage, on peut dire, de l'affaire en ne retenant pas la version de la famille d'une part, d'autre part en se focalisant sur certains éléments plutôt que d'autres. Mais il y a une juge d'instruction qui va être en charge de l'affaire et qui, elle, va pas tout à fait accepter ce cadrage, qui va aller jusqu'à mettre en examen les gendarmes. On ne saura hélas jamais quelle ordonnance elle rendra, puisque le hasard fait que cette juge change d'affectation, ça n'a rien à voir avec l'affaire, et qu'elle est remplacée par une autre, et que le hasard fait aussi que cette autre personne n'a pas l'habitude, c'est le moins qu'on puisse dire, de traiter ce type d'affaires, et ne va pas s'autoriser, compte tenu du cadrage assez puissant imposé par le procureur dès le départ, à poursuivre au fond l'élan un peu contradictoire qui avait semblé donner le juge d'instruction qui l'a précédé. Et donc ça va être un élément probablement déterminant dans la manière dont cette vérité judiciaire va être produite. Mais au-delà de tout ça, Didier Fassin, ce que je voudrais qu'on aborde, parce qu'on n'a pas le temps de rentrer dans les détails de cette affaire, et j'invite tout le monde à lire ce livre qui devrait être une lecture obligatoire pour tous les étudiants en droit, déjà, pour commencer, mais aussi pour tous les citoyens qui sont un peu soucieux de savoir comment on produit la justice aujourd'hui dans ce pays. Ce que j'ai trouvé passionnant en vous lisant, c'est au fond que vous proposez et que vous opposez à ce mode d'objectivation judiciaire un mode d'objectivation qui est celui des sciences sociales, qui procède différemment, avec des méthodes différentes. Heureusement que les sociologues n'ont pas les pouvoirs de police pour mener des enquêtes, c'est pas ce que je veux dire, mais en revanche, ce qui est très intéressant, c'est que à aucun moment vous cherchez des coupables, à aucun moment vous êtes là pour punir qui que ce soit, pour reprendre une expression qui vous occupe et à laquelle vous aviez consacré un livre précédent qui s'appelle « Punir ». Vous êtes là pour comprendre. Il y a là, non pas une volonté de punir qu'on observe aujourd'hui terrible à travers la société, dans tous les sens, mais pour une volonté de savoir, une volonté de comprendre ce qui s'est passé et qui va vous conduire à proposer un cadrage beaucoup plus large à poser des questions que la justice n'a même pas le droit de se poser. Pourquoi le GIGN a-t-il été convoqué pour intervenir? Il s'agit de l'interpellation de quelqu'un qui n'est pas rentré à la prison après avoir eu une forme de liberté provisoire.
C'est pas permission de sortir.
C'est pas un dangereux terroriste. Et donc, il y a là des explications que vous avancez. C'est-à-dire que le GIGN, il y a des unités maintenant un peu partout dans le pays. Il faut bien qu'elles servent à quelque chose. Il n'y a pas, heureusement, suffisamment d'attentats pour les occuper 24 heures sur 24. Et là, ce choix, au fond, qui pose la question non pas de la culpabilité, mais de la responsabilité de l'organisation des pouvoirs publics pour traiter ce genre de situation, le cadre judiciaire ne permet pas de le poser. Or, ce cadre judiciaire, il est prépondérant. On ne peut que déplorer la manière dont la presse va marcher dans les pas du procureur, en l'occurrence dans cette affaire, mais de manière générale, peut-être, la façon dont la presse et les médias se placent naturellement davantage dans les pas des juges d'instruction que dans les pas des sociologues, par exemple. C'est tout l'enjeu, me semble-t-il, de votre travail, là.
Oui, alors, j'ai pu parler aux deux juges d'instruction, j'ai pu parler au procureur. Je salue, à la fin de l'ouvrage, en les remerciant, l'honnêteté avec laquelle ils se sont prêtés à cet exercice avec moi. Et donc, en aucune façon, il ne s'agit pour moi de juger les juges. Et il s'agit plutôt, effectivement, de comprendre. Et je dois dire que dans le chemin qui s'est fait avec la famille, et en particulier avec la sœur d'Angelo, ce qui m'a frappé, c'est comment leur attente était une attente de vérité et de justice, mais au sens général, c'était pas une attente de revanche, c'était pas de... Alors bien sûr, si les gendarmes avaient été convaincus d'avoir tiré sans légitime défense, il aurait fallu qu'ils aient une forme de punition, mais c'est pas ça qu'ils attendaient. Ce qu'ils attendaient, c'est qu'on dise la vérité sur la manière dont leur frère, leur fils avait été exécuté selon leurs termes, mais en fait, disons au moins tué. Et donc c'est cette vérité qu'ils attendent et que donc j'ai moi-même essayé de rechercher. Alors sur le cadrage plus général, je dirais qu'il est à deux niveaux. Il est au niveau, effectivement, comme vous l'avez dit, de pourquoi fait-on intervenir le GIGN dans une situation où il s'agit d'un homme de la communauté des gens du voyage, donc ce qu'on appelle un voyageur, qui n'a jamais présenté de danger pour des policiers. Et d'ailleurs, d'une manière générale, les gens de voyage ne s'attaquent pas aux policiers. Alors, il peut y avoir des émeutes, par exemple, qui se sont quelquefois produites, rarement, à la suite de la mort de l'un d'eux. Mais ça n'est vraiment pas dans la pratique. Donc, pourquoi, alors que les gendarmes du coin disent, nous, on aurait pu aller le chercher, on aurait demandé à ses parents qui se rendent à nous. Mais là, on est allé chercher le GIGN, qui est le dernier niveau de quatre possibilités qu'a la gendarmerie pour intervenir dans ces cas-là. C'est par rapport à une fantasmatique autour des gens du voyage, du danger qu'ils représenteraient. Et c'est effectivement parce que plus on crée d'unités spéciales d'intervention qui sont censées être exceptionnelles, et plus on est amené à les utiliser. C'est le cas du GIGN pour des affaires comme celle-là. C'est le cas des ERIS aussi, qu'on fait intervenir maintenant dans les prisons, qui sont un peu l'équivalent, qu'on fait intervenir dans les prisons simplement pour organiser les fouilles.
Hein, c'est le cas des BAC sur lesquels vous aviez travaillé précédemment.
C'est le cas des BAC, effectivement. Donc il y a des unités spéciales qui sont créées et qui, si on les limitait aux prises d'otages et aux attaques terroristes, interviendraient au maximum une fois par an, même probablement une fois tous les 2-3 ans. effectivement, il faut qu'il fasse d'autres choses. Je ne dis pas, je n'ai jamais dit qu'il s'agissait d'une expérimentation comme certains l'ont proposé, mais simplement c'est l'occupation qui leur revient. Et puis il y a un deuxième niveau qu'il faut prendre en compte, c'est le niveau des juges. Au fond, pourquoi est-ce que les juges sont amenés à prendre une décision dans laquelle la parole des gens du voyage est si peu prise en compte et la parole des gendarmes remplit la totalité du dossier. Et là, je crois qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus général, qui a à voir dans toutes ces affaires qui impliquent des forces de l'ordre, qui a à voir avec, d'une part, les affinités que les juges ont avec les policiers ou les gendarmes, qui sont ceux qui leur apportent des cas, qui les aident à résoudre des problèmes,
avec lesquels ils travaillent au quotidien.
Et avec lesquels ils travaillent au quotidien, ce qu'on peut bien comprendre. Et puis, donc on peut parler d'infinité institutionnelle ou d'infinité professionnelle, encore une fois, qu'on peut bien comprendre, alors qu'évidemment, ils n'en ont aucune avec les gens du voyage. Et puis, deuxièmement, il y a ce qu'on peut appeler une hiérarchie des crédibilités. C'est-à-dire, il y a des gens qu'on va croire plus que d'autres. Et évidemment, on va plus croire des forces de l'ordre qui sont assermentées que des gens du voyage sur lesquels on a en plus des tas de préjugés. Donc là, on a des éléments qui dépassent de bien loin le cas précis de cette histoire.
On revient sur cette histoire dans la deuxième partie de l'émission avec l'écrivaine Marie Cosnet qui nous rejoint, c'est après un extrait du nouvel album de Django Django. Voyageurs, c'est la contre-enquête de Didier Fassin dont nous parlons aujourd'hui à la suite dans les idées, un livre qui paraît aux éditions du Seuil, un livre dans lequel, nous l'avons vu, Didier Fassin propose de mettre à plat différentes versions d'une affaire qui est cette mort d'un voyageur. Ce livre se termine par un épilogue dont le mode d'écriture est différent du reste du livre puisqu'il fait appel à l'imagination de l'auteur, Didier Fassin, qui imagine à quoi a ressemblé la dernière journée de la vie d'Angelo, ce voyageur tué par deux gendarmes. Et évidemment, il y a là de la fiction, c'est une évidence, puisque l'auteur imagine ce qu'a pensé Angelo jusqu'à la toute fin, jusqu'aux dernières secondes de sa vie. Ça m'a donné l'envie, Marie Cosnay, de vous proposer de nous rejoindre pour cette seconde partie, parce que vous êtes écrivaine et que j'ai lu récemment de vous un texte, L'histoire de personne, qui est une tentative d'approcher la vérité avec les moyens de la littérature et face à une affaire qui n'a rien à voir mais qui est complexe et dans laquelle, là encore, se trouve face à face des versions, pas seulement deux, des versions contradictoires et complexes. Marie Cosnay.
Oui, exactement. Bonjour et merci une fois. Oui, c'est un petit texte qui s'appelle Histoire de personne et dans lequel je tente, non pas comme sociologue évidemment, ni même comme journaliste, mais simplement comme personne impliquée, embarquée dans l'histoire, de comprendre ce qui s'est passé. Voilà. De la même manière que dans l'histoire d'Angelo, dans la mort d'un voyageur, je ne cite pas les lieux et je ne cite pas non plus les noms, ou en tout cas je joue avec différents noms et différentes identités. Si je ne cite pas les lieux, c'est pour deux raisons. C'est d'abord parce que je vis à cet endroit-là, et l'autre raison, c'est aussi pour ne pas réduire les lieux à ce qui s'y serait passé, parce qu'il peut s'y passer beaucoup d'autres choses, et il s'y passe beaucoup d'autres choses.
Didier Fassin, cet anonymat, cette anonymisation, elle est importante pour vous aussi. C'est une manière de signifier qu'on se place dans une logique qui est différente de celle de la justice, qui va chercher à identifier des personnes, parce qu'il s'agit de les punir in fine. C'est une logique différente de celle des médias, qui fonctionne beaucoup au nom propre aussi, à la notoriété éventuellement de ces noms propres. Là, il y a l'idée de, à la fois de s'attacher à une affaire particulière, singulière, et en même temps d'essayer de comprendre ce qu'il peut y avoir de plus général dans cette affaire.
Alors effectivement, comme vient de le dire Marie Cosnay, il s'agissait pour moi, comme je crois pour elle, d'abord d'un anima de protection des personnes qui étaient impliquées. Et donc en écrivant sur un cas aussi délicat et en donnant ensuite beaucoup d'éléments, il s'agissait de protéger et
mais pas seulement
et en même temps de dire qu'il y avait là une histoire à valeur universelle au sens où des histoires mythiques sont universelles ou des grands récits sont universels mais au fond, je me suis posé la question avec mes éditrices de laisser ou non le prénom Angelo. Parce que dès lors que je supprimais tous les autres, pourquoi laisser Angelo? Et j'ai essayé de l'écrire en supprimant, c'est-à-dire j'ai tout supprimé. Et d'une part, c'était extrêmement difficile à lire. Et d'autre part, je me suis dit que cet universel-là, il résidait dans cet homme-là, et que cet homme-là, il fallait, je crois, de la même façon que Marie Cosnay essaye de le faire dans son texte, il fallait lui rendre quelque chose de sa dignité bafouée et de son honneur perdu, que perdu pas seulement parce que la vie lui avait été ôtée, mais aussi parce que la vérité lui avait été supprimée.
Marie Cosnay, c'est ce qui vous a poussé aussi à rendre cette dignité au protagoniste principal de votre histoire.
Oui, alors le protagoniste principal s'appelle Salif, on peut le nommer, il se nomme lui-même et il est d'accord pour qu'on le nomme. Et en effet, c'est lui rendre la parole, voilà, et lui donner la parole puisqu'il ne l'a pas eue dans cette histoire. Et de la même manière que c'est en effet ouvrir une histoire ou en tout cas un cas à d'autres cas et à l'universalité, c'est aussi ouvrir un personnage à ses multiplicités, à ce qu'il est d'autre en fait, à ce qu'il est d'autre en lui. Et ça c'est peut-être, alors ça c'est sur le personnage principal, Angelo ou Salif, mais c'est aussi dans la petite histoire de personne, c'est aussi le cas pour les autres personnages, pour les autres protagonistes, qui sont des protagonistes qui, à l'issue de l'enquête, c'est pas leur vérité que je mets en valeur, on va dire, c'est pas leur vérité qui est celle que qui me semble rendre justice à l'histoire, mais il n'empêche que, pour autant, elles ne sont pas non plus réduites à l'erreur, en fait. C'est pas la question. Cette question-là se pose pas. Et je me disais aussi, par rapport à ce que vous disiez sur la justice, sur la vérité judiciaire, dans l'histoire dont rencontre l'histoire de personnes, il n'y a pas eu de vérité judiciaire puisqu'il n'y a pas eu de passage en justice. Donc c'est un peu le point commun avec le non-lieu de l'histoire d'Angelo. On n'a pas eu un non-lieu non plus, on a eu une justice populaire. Et le propre de la justice populaire, c'est qu'elle crée quelque chose qu'on retrouve dans l'histoire d'Angelo, à savoir le secret. Dans l'histoire d'Angelo, les policiers, les gendarmes se tiennent par le secret commun, en tout cas c'est ce qu'on peut imaginer. Et dans l'histoire de la vendetta ou de la justice populaire, évidemment que les protagonistes, à part Salif, se tiennent aussi par le silence et le secret. Toute proportion gardée, puisqu'évidemment l'issue c'est absolument incomparable, bien sûr. Salif est vivant et...
Didier Fassin, atteindre ou chercher une forme de vérité en passant par la littérature, ça peut nécessiter, pas toujours, de recourir à la fiction. Vous, c'est pas de la littérature que vous avez écrit, mais vous avez quand même recouru à la fiction à la toute fin du livre. Peut-être aussi pour dire que la fiction, c'est pas le faux. La fiction ne s'oppose pas à la vérité, et la fiction peut être un outil de connaissance, un mode d'objectivation intéressant. Ça, c'est une chose peut-être que ceux qui ont l'habitude des procédures d'objectivation judiciaire ou journalistique ont du mal à entendre. Parce que pour eux, la fiction, c'est le diable, Didier Fassin.
Alors, c'est une question qui m'a beaucoup intéressé bien avant ce livre, puisque j'avais écrit un article dans lequel j'essayais de réfléchir à la différence qu'il y avait entre mes travaux ethnographiques donc ceux conduits en Afrique du Sud et le livre Disgrace et plus généralement les œuvres de son auteur
Coetzee.
Et d'autre part mon travail sur la police avec The Wire. Et The Wire, qui est une fiction basée
série télévisée,
voilà, Simon. dans la première année porte sur la police et fiction, puisque l'auteur dit tous les épisodes qui sont que j'ai présentés sont inventés, mais auraient très bien pu se passer compte tenu du travail formidable de journaliste qu'il avait fait auparavant. Et donc j'avais essayé de faire cette comparaison entre fiction et ethnographie, et je m'étais appuyé notamment sur une distinction qui est à peine faite chez Proust, mais néanmoins entre réalité et vérité, ou bien par Martha Nussbaum sur la fiction comme verticalité et le travail, disons, de sciences sociales comme horizontale, c'est-à-dire... Il me semblait que, et bien sûr cette distinction est trop simple, mais il me semblait que l'ethnographe, celui qui fait une recherche sur une situation, sur un fait, essaie d'atteindre à une certaine réalité. Et que la fiction, sur des faits comparables, essaye d'atteindre à quelque chose qui est plus profond et qui est une forme de qu'on peut appeler de vérité, alors pas une vérité absolue évidemment, mais une recherche de vérité que l'ethnographe ne peut pas se permettre parce que il ne peut pas rentrer dans la peau des personnages, il ne peut pas imaginer ce qu'a été leur enfance, il ne peut pas ce que peut faire le romancier ou la romancière. Et donc je trouve qu'il y a là quelque chose, évidemment cette opposition est trop simple, et du reste j'essaye de la déconstruire ensuite pour montrer qu'en réalité on a des formes de travail hybride entre réalité et vérité des deux côtés, mais je crois que là, il faut vraiment donner à la fiction son pouvoir de dire quelque chose de la vérité.
Marie Cosnet.
Oui, je me disais par rapport à l'épilogue dans La mort d'un voyageur, tout l'épilogue. Ce qui fait rupture avec le reste, c'est pas tant, pour moi, hein, la différence. Il n'y a pas une grande différence avec le reste du point de vue de la réalité, de la vérité, etc. Mais du point de vue de la langue, en revanche. C'est-à-dire les phrases, on a des phrases qui sont nominales. On accepte l'incohérence, par exemple, les incohérences qui sont les plus de vérité en réalité. Parce que, par exemple, Angelo, il se met deux jogging l'un sur l'autre, je crois. Et puis après, il va voir ses parents, il repart, il revient. Et puis aussi, il y a autre chose comme ça, il dit quelque chose à sa fille qu'il ne pourrait pas dire si... on était dans un récit simple en fait, et toutes ces, je sais pas, il lui dit qu'il va reprendre une vie normale, qu'il va aller s'inscrire à Pôle Emploi, alors qu'en réalité il est recherché. Donc, en principe, il pourrait pas dire ça. Et si on voulait être, crédible, on le dirait pas. Mais c'est justement parce que il y a des incohérences que c'est crédible en fait. Et c'est tout ça, toute la partie de l'épilogue, elle est tellement riche de vérité parce que pleine de contradictions en fait, et aussi elle tranche avec le reste du livre par la langue qu'elle se permet.
Didier Fassin.
Oui, je dois dire que cet épilogue, il est écrit aussi à partir de tous les témoignages que j'ai pu recueillir sur les derniers moments de la dernière journée, disons. Mais évidemment, j'ai été obligé de remplir les intervalles entre ce que je savais par ce que je pouvais imaginer. Donc il y a un double élément, comme le faisait remarquer Marie Cosnet, à la fois, réaliste et fictionnel, que j'ai essayé de rendre aussi pour rendre encore une fois sa dignité à Angelo.
Et cet épilogue n'aurait pas pu être écrit sans l'enquête, la contre-enquête qui le précède et qui était extraordinairement riche. Mort d'un voyageur, une contre-enquête, c'est le livre dont nous parlions aujourd'hui, un livre de Didier Fassin. Vous trouvez la référence bibliographique sur la page de La Suite dans les idées sur France Culture, une page où vous pouvez écouter l'émission et vous abonner au podcast. C'était La Suite dans les idées, Sylvain Bourmeau, attaché de production Marie Dalquier, à la technique Anthony Thomasson, à la réalisation Marie Placé. C'est Christine Bernard que vous retrouvez dans quelques instants sur l'antenne de France Culture pour une histoire particulière.